Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. À l'occasion du couronnement de Charles III, je vous propose une série spéciale de 4 portraits de souverains qui ont marqué l'Angleterre et dont les actions ont encore des conséquences sur la couronne aujourd'hui. Après Guillaume le Conquérant et Henri VIII, penchons-nous sur la Reine Vierge Élisabeth Ière. Quand elle haranguait son armée avant l'attaque de l'invincible armada espagnole, elle disait avoir un corps de faible femme et un cœur d'homme. Mais celle qui lui a donné le plus de fil à retordre est une autre femme, Marie Stuart, la reine d'Écosse. Suite à leur affrontement, l'Écosse est intégrée au royaume d'Angleterre. Voilà pourquoi Charles III règne encore aujourd'hui sur ce territoire. Épisode 3, Élisabeth Ière, le baiser de la dame. Nous sommes à Londres en février 1587. Élisabeth Ière, souveraine incontestée d'Angleterre depuis presque 29 ans, prend la plume. C'est l'âme en peine qu'elle écrit à son petit cousin Jacques VI d'Écosse pour lui annoncer la condamnation à mort de sa mère. Marie Stuart est en résidence surveillée en Angleterre depuis 19 ans. Les mots de la Reine Vierge sont pleins de commisération. Elle évoque un événement lamentable commis contre sa volonté. Certes, Élisabeth n'aime pas avoir la mort d'une autre reine sur la conscience, ça vient souiller sa vision de sa propre majesté divine. Mais Marie Stuart l'a bien cherchée. Et le pire, c'est que même morte, elle lui cause des tracas. Elle passe à la postérité pour une martyre. La Renaissance a été une période propice aux femmes. Partout en Europe, qu'elles soient reines ou régentes, elles prennent un pouvoir considérable au point d'hystériser les prédicateurs les plus misogynes, comme le réformateur de l'Église écossaise, John Knox. Dans ses écrits, il fustige « le monstrueux gouvernement des femmes » et les deux femmes qui lui déclenchent ces crises sont deux cousines, Élisabeth Ière et Marie Stuart. Élisabeth a 3 ans quand elle passe de princesse à bâtarde. Son père, le roi Henri VIII, la rejette après avoir fait assassiner sa mère Anne Boleyn. Élisabeth grandit dans une misère relative, mais son précepteur veille à développer son esprit qu'il juge masculin. À cette époque, on considère qu'une femme intelligente a quelque chose de viril, et il faut voir ça comme un compliment. Quelques années plus tard, Henri VIII se ravise et réintègre sa fille dans l'ordre de succession. Elle est en 3e position après son jeune frère Édouard et sa grande sœur Marie. Le jeune Édouard VI meurt prématurément sur le trône à 15 ans. La nouvelle reine Marie, fille de l'Espagnole Catherine d'Aragon, est une farouche catholique. Elle s'est mise en tête de ramener son pays dans le giron de Rome et de mettre fin à l'hérésie protestante. Sa politique se solde par de nombreux massacres et elle gagne le surnom de Bloody Mary, Marie la Sanglante. Elle aussi meurt prématurément des suites d'une maladie. C'est comme ça qu'Élisabeth est sacrée reine en 1559 à l'âge de 25 ans. Cette protestante, déjà rompue au jeu des intrigues politiques, va tout faire pour ramener la paix dans son royaume. Pour ça, elle veut gouverner seule, sans mari pour lui dicter sa conduite et se prévaloir de sa couronne. Et ça, c'est vraiment audacieux pour une femme de son époque. L'enfance de Marie Stuart est très différente de celle d'Élisabeth. Elle succède à son père Jacques V d'Écosse quelques jours seulement après sa naissance. Ce bébé reine est entouré d'un régent zélé et d'une mère catholique au caractère bien trempé, la française Marie de Guise. Depuis des siècles, les Anglais ne rêvent que de prendre l'Écosse. La politique moins belliqueuse d'Élisabeth fera office de trêve. Mais ce n'est pas un moment d'apaisement pour autant. L'Écosse est divisée en clans qui empêchent toute unité politique solide au sein du royaume. À cette structure politico-administrative complexe s'ajoute une lutte sanglante entre les familles protestantes et les familles catholiques. Pour protéger la couronne de sa fille, Marie de Guise se tourne vers son pays natal, la France. Sa fille n'a que 6 ans quand elle arrive à la cour du roi Henri II. Elle est promise à son dauphin François. La petite Marie est donc élevée dans les fastes d'une cour raffinée qui la prépare à devenir reine selon les standards français, c'est-à-dire la mère des futurs héritiers et la représentante du charme féminin à la cour. Mais elle est aussi un pion dans la politique de sa belle-famille. Henri II la pousse à ajouter le lion anglais sur ses armoiries. Le projet est clair. Marie Stuart est l'arrière-petite-fille du roi d'Angleterre Henri VII Tudor. Elle peut tout à fait revendiquer la couronne de ce pays au même titre qu'Élisabeth qui, elle, est la petite-fille d'Henri VII. Évidemment, Henri II a une idée derrière la tête. Pour lui, comme pour l'Empire espagnol, l'Angleterre est une terre à annexer par tous les moyens pour s'arroger ses richesses. Mais chaque souverain catholique proche du pape espère aussi en finir avec l'hérésie protestante qui alimente les guerres de religion. Marie Stuart épouse donc le dauphin de France à 15 ans. Elle devient reine de France en 1559, quelques mois après le sacre d'Élisabeth en Angleterre. Pour les Français, Marie doit devenir aussi reine d'Angleterre pour unir les deux royaumes. Mais l'instabilité politique et religieuse en France diffère ce projet. François II meurt prématurément de maladie en 1560. Son règne n'a duré qu'un an et demi. Son frère Charles IX lui succède. Marie Stuart, veuve à 17 ans, rentre en Écosse dont elle est encore la reine. Pendant qu'Élisabeth s'impose habilement en reine toute puissante dans son royaume, Marie en découvre un qu'elle ne connaît pas. James Stuart, son demi-frère illégitime, exerce la régence. Protestant convaincu, il a chassé presque tous les catholiques des institutions de pouvoir. James convainc sa sœur de lui laisser exercer des fonctions de premier ministre officieux. En échange, il lui laissera exercer sa foi catholique alors même que les messes sont interdites et il prendra en compte son avis dans le gouvernement. Marie accepte. Son enfance choyée en France ne lui a pas donné le sens politique de sa cousine Élisabeth. Elle ne comprend pas qu'elle n'est qu'un pion aux mains des hommes. Selon moi, si elle avait été plus maligne, elle aurait pris la tête du parti catholique écossais. Au lieu de ça, elle se laisse isoler par son demi-frère. Alors qu'Élisabeth refuse farouchement de se marier pour ne pas laisser un homme lui prendre sa couronne, Marie accepte la demande en mariage d'un cousin, Henri Stuart, Lord Darnley, petit-neveu d'Henri VIII. Elle voit sans doute cette union comme un moyen de se rapprocher de la couronne d'Angleterre dont elle rêve parce qu'on lui a trop dit en France qu'elle était la sienne. Un petit Jacques naît vite de ce mariage. Marie demande à Élisabeth d'en être la marraine. La souveraine d'Angleterre accepte, mais ne prend pas la peine de se déplacer jusqu'en Écosse pour le baptême. Elle propose néanmoins un marché intéressant à la jeune mère. Si elle n'a pas d'enfant, elle fera de Jacques son héritier à condition que Marie renonce à ses prétentions sur la couronne d'Angleterre. Là, je vous le dis franchement, si Marie avait eu les vues moins courtes et si elle avait analysé finement sa cousine, elle aurait accepté ce marché avantageux. Mais par vanité ou par bêtise, elle refuse. Maintenant, c'est la guerre froide entre les deux reines. Alors qu'Élisabeth ramène la paix, la prospérité et la tolérance religieuse dans son royaume, celui de Marie s'embrase. Elle semble tomber dans un piège grossier tendu par ses ennemis protestants. Le prince consort est un homme violent et alcoolique. Elle aurait été poussée par son amant, le comte de Boswell, à le faire assassiner dans des conditions rocambolesques. Quoi qu'il se soit vraiment passé, la réputation de Marie est souillée. Une bonne partie du royaume la perçoit maintenant comme une catin et une meurtrière. Boswell, qui est acquitté pour le meurtre du prince consort, demande la main de Marie. La reine refuse, alors Boswell l'enlève et la viole. Marie n'a pas d'autre choix que de l'épouser pour laver son honneur. La Confédération des nobles écossais la fait alors arrêter pour ses intrigues et obtient son abdication en faveur de son fils. Jacques VI d'Écosse a seulement un an. Le parti protestant écossais triomphe. L'année suivante, en 1558, Marie s'échappe de sa prison et lève une armée immédiatement défaite par ses ennemis. Acculée, elle fuit au nord de l'Angleterre sur les terres de sa cousine. Élisabeth sent venir les problèmes. C'est au nord de son royaume qu'il y a le plus de catholiques. Sa cousine pourrait les soulever pour lui voler sa couronne. Par précaution, elle met donc Marie Stuart en résidence surveillée pendant 19 ans. Elisabeth, qui refuse de renouer avec la violence de sa sœur aînée Bloody Mary, ne sait que faire de Mary Stuart qui passe son temps à écrire au pape, au roi de France et au roi d'Espagne. En plus, elle maîtrise à la perfection le chiffre, l'art de coder les lettres. Elisabeth doit mettre tout son service de renseignement sur le coup pour déchiffrer les missives de la reine d'Écosse déchue et anticiper les problèmes qu'elle va lui causer. Pour se débarrasser de sa cousine, Elisabeth doit agir en stratège. Si vous me permettez une analogie, on pourrait dire qu'elle a utilisé le baiser de la reine aux échecs. Acculer le roi ennemi, ici la reine, avec le soutien d'une autre pièce, ici James Stuart, le demi-frère de la reine Mary Stuart. James fournit ce que les historiens appellent les lettres du coffret, des lettres d'amour que Mary Stuart aurait écrites à Boswell et qui laissent entendre, entre les lignes, un complot pour tuer le prince consort. Ce n'est pas assez pour se débarrasser de Mary, mais Elisabeth a brisé la réputation de sa rivale. C'est un premier pas vers son élimination. Les années passent, et même si Mary Stuart est gardée à vue, elle alimente trop de complots contre Elisabeth qui doit se résoudre à la tuer. C'est ainsi que le renseignement laisse un noble catholique anglais, Anthony Babington, se rapprocher de Mary Stuart. En effet, certains catholiques espèrent toujours remettre la couronne à un souverain qui partage leur foi. Lorsque la reine déchue d'Écosse concède dans une lettre qu'il faudrait tuer la reine d'Angleterre, Elisabeth peut enfin la faire condamner pour haute trahison. Selon certains historiens, cette lettre attribuée à Mary Stuart serait un faux, mais le résultat est le même. Le 8 février 1587, après 19 ans de détention, la reine d'Écosse, en martyr catholique dont les mains débordent de crucifix et de rosaires, offre son cou au bourreau. Celui-ci, un peu ivre, s'y reprend à 3 fois pour lui couper la tête. Mary Stuart gagne un statut de victime dans l'histoire et Elisabeth fait ce qu'elle peut pour négocier avec sa conscience et les impératifs politiques de son royaume. Comme elle l'avait envisagé depuis 20 ans, Elisabeth, qui est officiellement restée une reine vierge, choisit Jacques VI d'Écosse, le fils de Mary Stuart, comme successeur. Quand celui-ci monte sur le trône d'Angleterre en 1603 sous le nom de Jacques Ier, il réunit ses deux couronnes. Charles III, couronné 420 ans plus tard, règne donc sur l'Angleterre mais aussi sur l'Écosse grâce aux habiles stratégies de sa lointaine aïeule Élisabeth Ier. C'est la fin de ce récit consacré à Élisabeth Ier et à son duel de dames avec Mary Stuart. Mais elle n'est pas la seule reine à avoir repoussé les limites du royaume d'Angleterre. C'est une autre femme, la reine Victoria, qui va lui donner une portée mondiale et poser les fondations du futur Commonwealth. À très vite sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de cette saga anglaise.